Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
À l'entrée, c'est comme en prison. Je voudrais voir pour nos mômes un autre horizon. Tu leur dis qu'ils comprendront quand ils grandiront. Mais je vois peu d'adultes heureux dans les environs. L'école, c'est comme une course dans un entonnoir. Si tu restes coincé au milieu, bah tu vois tout en noir. Pour y avoir un avenir, il faut des parents riches. Les politiciens peuvent mentir, mais pas les statistiques. J'ai découvert la poésie grâce au rap français. Avant de connaître Socrate, j'avais déjà pensé. Et au risque d'offenser mes profs de français, j'ai appris à écrire chez moi parce qu'en cours je dormais. Perdu sur du papier, la pensée brûle comme Icare. On bouffe beaucoup de savoir, mais on reste ignare. Le rapport maître-élève empêche les consciences d'éclore. L'école a ses raisons que la raison déplore. Et c'est pas étonnant si quand on en sort, on accepte d'obéir à la loi du plus fort. Y a des barreaux à l'entrée, c'est comme en prison. Je voudrais voir pour nos mômes un autre horizon. Tu leur dis qu'ils comprendront quand ils grandiront. Mais je vois peu d'adultes heureux dans les environs. J'ai subi l'éducation, le nez dans le guidon. À quoi sert de rouler vite sans savoir dans quelle direction? Faut pas un cul de 200, il faut pas le corps d'Hercule. Mais faut un certain recul pour comprendre qu'on te manipule. J'ai la justice dans la tête, la vérité dans le cœur. Quand certains n'ont que le paraître et d'autres le par cœur. Moi je voudrais voir les regards changer de trajectoire. Se détourner de la peur et s'emplir d'espoir. Je voudrais voir les regards s'emplir d'espoir. Y a des barreaux à l'entrée, c'est comme en prison. Je voudrais voir pour nos mômes un autre horizon. Tu leur dis qu'ils comprendront quand ils grandiront. Mais je vois peu d'adultes heureux dans les environs. Si t'es petit, écoute-moi, j'ai un truc à te dire. Y a aucun mal à faire le mur ou à désobéir. Le monde peut être injuste, remets-le en question. Mais apprends aussi à reconnaître quand c'est toi qui es con. Si t'es grand, n'écoute pas, mais pense à tes gosses. Quand ils voudraient découvrir, toi, tu veux qu'ils bossent. Tu inhibes leurs désirs et leur curiosité. Tu ne les fais pas réfléchir, mais juste réciter. Tu fabriques des cons obéissants, bien conformes, bien pensants. Il y a des barreaux à l'entrée, c'est comme en prison. Je voudrais voir pour nos mômes un autre horizon. Tu leur dis qu'ils comprendront quand ils grandiront. Mais je vois peu d'adultes heureux dans les environs. Il y a des barreaux à l'entrée, c'est comme en prison. Je voudrais voir pour nos mômes un autre horizon. Tu leur dis qu'ils comprendront quand ils grandiront. Mais je vois peu d'adultes heureux dans les environs. Alors on fait quoi, hein? On arrête tout? L'éducation, ça sert à rien de façon. On s'en fout. J'ai conscience de l'importance du système éducatif. Je sais bien que le savoir est une arme, un outil magnifique. Je dis juste qu'il y a de meilleures façons pour transmettre la connaissance que par la contrainte et dans la souffrance.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'Albatros. Bonjour.
Bonjour.
L'Albatros, auteur et interprète de chansons, tes chansons.
Oui.
Et pour cela, tu nous présenteras ce spectacle vendredi 2 août à Andarta à 21h à 10.
Oui, c'est ça, c'est bien ça.
Alors avant tout, tu es interprète de slam, on peut dire
Slam et rap. J'accepte les deux intitulés, ou chansons à texte, ou... Je m'identifie pas à un genre bien spécifique.
L'Albatros, c'est lié aussi peut-être à celui de Baudelaire.
Ouais, c'est ça. C'est un poème de Baudelaire où il fait une métaphore tout le long, une métaphore filée où il compare le poète à un albatros.
Très maladroit sur ses pattes.
C'est ça. Très maladroit quand il est sur le sol, il se fait chahuter par tout le monde, il n'arrive pas à marcher, il boite. Et quand il est en l'air, par contre, quand il est en haut, il est majestueux, il vole pendant des heures.
Et
ça se passe beaucoup mieux pour lui.
Et c'est la mélodie qui t'emmène, donc?
Oui.
On a introduit cette émission avec l'entonnoir. C'est lié plutôt à l'éducation, celle des enfants, pour les préparer à ce cadre de vie.
Ouais. Alors, c'est une chanson que j'ai écrite parce que j'ai un problème moral avec le concept d'école et le principe d'enfermer les enfants pour leur apprendre des choses, mais de les obliger. En fait, il y a pas mal de pédagogies alternatives d'ailleurs qui existent, mais la plus répandue, celle de l'éducation nationale, ça consiste à enfermer les enfants et à les faire écouter des cours magistralement assis sur une chaise en se taisant et de la manière dont on a conçu les cours pour eux, et pas de la manière dont eux ils vont aller chercher l'information. Et du coup, c'est une réflexion autour de ça et du fait que ce serait une forme d'emprisonnement, même si c'est pas comparable à la prison, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là.
Au-delà de savoir lire et écrire et compter, qu'est-ce que tu pourrais reprocher au-delà de cette base fondamentale de l'apprentissage ?
Comment ça, reprocher Je ne reproche pas de savoir lire.
Non, c'est le cadre dans lequel tu situes la préparation des enfants. Certes, il faut apprendre à lire, à écrire, oui, mais aussi à compter. Mais au-delà de cette base d'éducation, d'enseignement, qu'est-ce que tu pourrais reprocher justement à ce cadre ?
C'est le cadre justement, c'est la manière dont est faite la structure, que le fait qu'on ne laisse pas l'enfant aller chercher lui-même ce dont il a besoin, parce qu'il va avoir envie à un moment donné d'apprendre à lire, écrire, compter. Il va aller chercher l'information par lui-même. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait plutôt lui donner accès à l'information pour le laisser aller la chercher de lui-même, plutôt qu'à la lui imposer et à lui donner ce cadre restrictif et contraignant. Je pense qu'on n'apprend jamais mieux que quand on a envie d'apprendre et d'aller chercher l'information par nous-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai les biais aussi de mon vécu et moi, à l'école, je l'ai assez mal vécu. J'avais des bonnes notes, mais j'ai toujours ressenti ce sentiment d'emprisonnement et de non-liberté dans mon apprentissage. Et c'est le jour où je l'ai quitté, où j'ai commencé à étudier chez moi à ma manière. J'ai passé plusieurs bacs, même en candidat libre. C'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler chez moi à ma manière, et ça prend du temps à apprendre, où j'ai commencé vraiment à apprécier ça et j'ai trouvé ça plus efficace aussi.
Ceci dit, l'éducation nationale propose une certaine approche de la méthode d'apprentissage. C'est une base quand même qui s'acquiert à ce moment-là et sur laquelle tu peux t'appuyer pour toi-même ensuite aller à tes propres recherches.
Alors c'est vrai qu'on voit que les enfants qui n'ont pas ces bases-là sont pénalisés dans leur vie future et c'est là où ma critique elle n'est pas complète non plus. Je reconnais les bénéfices de l'école et l'utilité qu'elle a. C'est la manière de faire qui me déplaît et que je pense qu'il faudrait améliorer, changer.
Tu cites aussi Gaël Faye, un des auteurs qui t'a inspiré.
Moi, j'aime beaucoup, oui.
On peut peut-être parler de cet auteur rapidement et en quoi t'a-t-il influencé
Son écriture, je trouve qu'il a une écriture qui est très précise dans les mots qu'il emploie, très engagée aussi, mais engagée pas trop dans la colère, même si on a un peu parfois dans ses chansons. Un engagement qui est très précis. C'est-à-dire, il va toujours aller essayer de trouver vraiment le bon mot, le bon sens dans sa pensée. Il ne va jamais se laisser aller à la facilité dans son écriture. Peut-être un petit peu plus dans les derniers albums, mais parce que c'est des albums qui ont plus vocation à faire danser qu'à faire réfléchir. Les premiers albums avaient plus vocation à faire réfléchir.
Et puis, il y a cette référence de Georges Brassens. C'est incontournable, selon toi.
Brassens, je pense... Dans les gens qui écrivent des chansons et qui accordent de l'importance à l'écriture, je pense qu'on est beaucoup à être inspiré par Brassens parce que nos parents l'écoutaient, parce que nous-mêmes on l'écoute et c'est une référence en la matière. Il a écrit tellement de chansons et toujours, toujours super bien écrit, toujours le petit mot pour rire par-ci par-là.
Tout en abordant les sujets qui fâchent.
Et avec une grande subtilité que je n'ai pas toujours, pour ma part. Mais c'est vrai qu'il arrivait à amener les choses toujours en faisant rire les gens et sans choquer. Enfin, toujours, peut-être pas toujours, mais...
Non, il a eu
Il arrivait
ses
quand même polémiques. Par le rire oui. a désamorcé pas mal la critique. Et je pense, oh, c'est avec les années aussi, je pense qu'il a pris, parce qu'il y a une chanson qui s'appelait Hécatombe, où il en met vraiment pas mal plein le grade à la maréchaussée.
Le choix du rap et du slam, pour toi, c'était évident dès le départ, ou alors tu t'es essayé à d'autres aspects musicaux ?
Ben moi, c'était le choix de la facilité, voire de la seule chose que je pouvais faire, en fait, d'une certaine manière, parce que j'ai jamais fait de musique, jamais joué de musique, et j'ai jamais vraiment chanté, si ce n'est chez moi, tout seul, dans mon coin. Enfin, je me ressentais aucune légitimité à chanter des chansons. Et j'ai découvert... l'écriture, ça, j'ai toujours un peu écrit. Et ça, c'est un endroit où je me trouvais plus à l'aise. Et j'ai découvert les scènes slam, qui étaient un endroit où on pouvait partager nos textes à l'oral, dans des scènes ouvertes où tout le monde a 3 minutes pour dire un texte. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est très inclusif. Et ça permet de se présenter sur scène quand on n'a pas d'autre occasion de le faire et que peut-être on n'oserait pas le faire autrement. Et moi, ça a été là... C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier et j'ai découvert tout un nouveau monde par ce biais-là, des scènes ouvertes de slam.
Il y a un cadre, à t'entendre, donc il y aurait un cadre sur le slam. Est-ce que le morceau de musique doit durer autour de 3 minutes ou c'est une exigence de ta part ?
Alors quand je dis scène slam, c'est pas le genre musical qu'on appelle le slam auquel on n'a pas rentré grand corps malade. C'est les scènes ouvertes, vraiment, les scènes slam. C'est des scènes qui sont ouvertes à tout le monde, qui ont souvent lieu dans des bars ou des théâtres, ou des cafés, théâtres, tout ça. Et où chaque personne qui vient est invitée à venir sur scène. On s'inscrit au début de la soirée et il y a quelqu'un qui tourne souvent dans la salle pour demander aux gens s'ils veulent s'inscrire. Et chaque personne a le droit de dire un texte qu'elle a écrit. N'importe quel genre, ça peut être un texte théâtral, poétique, humoristique, improvisé, prévu à l'avance. Et voilà, c'est ce type de cadre-là, et c'est limité à 3 minutes pour que tout le monde ait le temps de s'exprimer, en fait. Mais quand je fais mon album, ça c'est plus tard, c'est plusieurs années après avoir découvert les scènes slam que j'ai fait mon premier album. Là, c'est plus du tout la même chose, il n'y a plus ce cadre-là, et je suis libre, dans la durée notamment.
L'Albatros, premier album qui est sorti quand ?
Qui est sorti en 2020. En 2020, à l'époque, j'étais en licence de lettres et il y a le mouvement des Gilets jaunes qui avait lieu à ce moment-là. Et bah, ça faisait un moment que je réfléchissais à l'idée de faire des chansons. Enfin, que j'en faisais un petit peu dans mon coin, mais que j'étais pas prêt à sortir un album. Et puis le fait qu'il y ait ce mouvement des Gilets jaunes, et puis moi, j'étais à la fac... Et j'avais l'impression qu'on étudiait des choses qui n'étaient pas liées à la réalité. En fait, je me dis, il se passe un truc, il y a un mouvement insurrectionnel dans mon pays. Et moi, je suis dans une salle où on parle de trucs un peu éloignés de ce truc-là et j'avais envie de m'impliquer, quoi. Et c'est là où je me suis décidé à sortir cet album qui est assez engagé. Je me suis demandé comment je peux me rendre le plus utile à ce mouvement-là que j'estimais légitime. Et ce que je savais faire, c'était écrire et c'était l'occasion.
Est-ce que le slam est aussi le prolongement d'une tradition littéraire en France avec ces grands auteurs dont vous vous inspirez et dont vous avez certainement parcouru les livres ?
Je sais pas. C'est la particularité, c'est quand même que ce soit ouvert à tout le monde. C'est très démocratique comme mouvement, le mouvement slam. Et les grands auteurs, certains s'en inspirent, d'autres non. Ça dépend d'où on vient, ça dépend de ce qu'on a lu. Forcément, ils font partie intégrante de la réalité littéraire dans laquelle on vit. Et c'est super. Moi aussi, j'ai choisi mon nom d'artiste à partir d'un poème de Baudelaire. C'est que quand même, j'y accorde une certaine importance. Mais je dirais pas que c'est dans la continuité parce qu'il y a quand même cette ouverture et le fait que l'importance accordée à donner la parole à tout le monde. Et ça, c'est quand même une particularité.
Le slam aussi est le témoignage de son époque. C'est le constat de ce que toi, tu éprouves dans le monde où tu vis. Et cela t'amène à ces paroles.
Le slam, c'est le constat de son époque dans le sens où c'est un espace de parole libre. Et cette liberté de parole permet justement, et le fait que ce soit ouvert à tout le monde, permet de, ouais, que ce soit assez en accord avec ce qui se passe dans l'époque. Les gens disent ce qu'ils ressentent, c'est ouvert à tout le monde. On bride pas la parole, même s'il y a quelques paroles, enfin s'il y a des paroles racistes ou des choses comme ça qui vont être dites à des scènes slam, évidemment ça va pas être ok, mais à ces quelques exceptions près là, on bride pas la parole. Donc forcément, c'est en accord avec l'époque et ouais, voilà.
Il existe un antagonisme ou des antagonismes au sein du slam, justement sur la scène slam.
Comment ça ?
Tu parles de racisme, donc.
Oh, c'est très très rare.
Hein. Il y a des conflits qui peuvent être générés. Ou alors, est-ce que c'est justement une joute également dans le cadre de joutes que s'opèrent aussi ces expressions ?
La joute, c'est plutôt dans la culture rap, la culture du clash. Le slam, c'est pas trop dans cet état d'esprit-là, c'est plutôt dans le partage et la bienveillance. Ces histoires de racisme, c'est pratiquement pas présent, ou d'islamophobie, ou de misogynie. Enfin, ça existe parce que ça existe dans la société et on n'est pas dans un micro. On est un peu dans un microcosme, mais pas au point que ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas un problème qui ressort particulièrement. C'est même presque inexistant, c'est pas dans l'état d'esprit.
C'est infime, en
ouais. somme.
Et puis, donc, nous allons écouter un deuxième morceau qui s'intitule LDEM. Est-ce qu'on peut y trouver une signification ?
LDEM, en fait, c'était un abrégé de La dictature en marche. Voilà.
Nous l'écoutons et on en parle ensuite.
Ok.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
J'ai fait un rêve qui me hante et revient par flashback. J'ai fait un rêve où les cyclopes étaient incandescents. J'ai fait un rêve où les licornes prenaient des coups de matraque. J'ai fait un rêve où l'océan était rouge. Sang, il y avait des chars, des hommes en noir, des coups de feu, des milices. Des hommes et femmes vêtus de jaune, un parfum d'injustice. Quand j'y repense, tout s'assombrit, j'en ai la chair de poule. Je n'avais pas d'échappatoire, ils tiraient sur la foule. C'était hier, ça fait 3 ans, ça fait 1000 ans que ça dure. J'ai fait un rêve où mon pays s'appelait dictature. C'était hier, ça fait 3 ans, ça fait 1000 ans que ça dure. J'ai fait un rêve où mon pays s'appelait dictature. J'ai fait un rêve où l'oxygène se raréfiait dans la fumée. Un rêve où la police servait à mutiler. J'ai fait un rêve où l'horizon semblait tituber. J'ai fait un rêve où même les rêves étaient prohibés. De tous côtés, des sons stridents, des corps à terre. On courait vers l'issue de secours avec des boussoles défaillantes. Quand un brave luttait pour défendre son frère, mains nues et regard fier, la suite était sanglante. C'était hier, ça fait 3 ans, ça fait 1000 ans que ça dure. J'ai fait un rêve où mon pays s'appelait dictature. C'était hier, ça fait 3 ans, ça fait 1000 ans que ça dure. J'ai fait un rêve où mon pays s'appelait dictature. Je les entends déjà, les petits bobos, les grands patrons outrés, nous expliquer que la France c'est mieux que la Corée du Nord. Ils disent y a pire ailleurs, alors pourquoi se révolter? Je réponds qu'en Corée comme en France, rien ne justifie les morts, rien ne justifie les comas, ni les éborgnés, rien ne justifie les grenades et les mains arrachées. Ils appellent ça maintien de l'ordre et violence légitime, mais tirer sur quelqu'un, moi j'appelle ça un crime. J'écris pas pour faire couler des larmes vaines, à la manière d'une bombe lacrymogène. J'écris l'indignation face à l'indifférence, et face à l'inaction, j'écris la résistance. Quand la justice fait défaut aux institutions, la violence légitime, c'est l'insurrection. C'était hier, ça fait 3 ans, ça fait 1000 ans que ça dure. J'ai fait un rêve où mon pays s'appelait dictature. C'était hier, ça fait 3 ans, ça fait 1000 ans que ça dure. Depuis je me suis réveillé, j'ai compris l'imposture. C'était hier, ça fait 3 ans, ça fait 1000 ans que ça dure. On voudrait bien quitter nos geôles, mais on repeint juste les murs. C'était hier, ça fait 1000 ans que ça dure.
La dictature en marche, donc un morceau que tu as dû composer aux alentours de 2018, à l'époque des Gilets jaunes ou...
Oui, alors c'est vrai que je dis ça fait 3 ans dans la chanson, c'est parce que c'est la version qui a été réenregistrée Et la première version, c'était ça fait 2 mois, où, parce que ça avait été écrit juste après que j'ai assisté aux violences policières sur les Champs-Élysées, et ce déferlement de violence. On peut parler de ça, je me suis retrouvé au milieu de deux groupes de policiers qui chargeaient, et sans échappatoire, à me demander si j'allais me faire foncer dedans par ces policiers. Et alors que j'étais là, moi je me baladais, enfin je voulais juste voir ce qui se passait, quoi. Je voulais juste assister au mouvement, je n'étais pas en train de commettre quelque violence que ce soit. Et bref, après il y a tout ce qu'on sait, les éborgnements, les mains arrachées, etc. Enfin c'est un carnage. Et ouais, c'est ça qui m'a inspiré cette chanson. Je l'ai appelée LDEM et pas La Dictature en Marche, parce que je trouvais ça too much, La Dictature en Marche. Je trouvais ça un peu too much. Mais c'est... Voilà.
L'extrême-centre, c'est une préoccupation aussi pour toi ?
L'extrême-centre ? Ah, ça veut dire quoi, l'extrême-centre ?
Celle qui ne supporte aucun autre parti, que ce soit à droite ou à gauche, puisque c'est désigné forcément radical.
Moi, je ne crois pas trop en l'extrême-centre. Je crois en l'extrême-libéralisme, néolibéralisme d'ailleurs, parce que ça n'a rien de libéral, la politique actuelle. Je ne crois pas trop en l'extrême-centre. Je pense que le centre est une excuse pour se revendiquer comme légitime dans la politique qu'on mène, en donnant l'impression qu'on se trouverait au centre, alors qu'on estime juste être au-dessus de tout ça et qu'on veut pouvoir faire ce qu'on veut. Moi, c'est ce que je pense. Enfin, je parle de Macron, en l'occurrence. Et je ne crois pas qu'il soit à l'extrême centre. Je pense qu'il est à l'extrême, certainement, parce qu'il ne tolère pas l'opposition. Il n'accepte pas l'opposition. Il est sûr d'avoir raison. Et quand quelqu'un est majoritaire face à lui, il l'écrase. Donc, il est extrême. Centre, centriste, je ne crois pas qu'il le soit.
Tu parlais d'être non-musicien. Est-ce que depuis, quand même, tu t'es adapté aussi au jeu d'un instrument ? Et, ou alors, est-ce que tu utilises des instrumentales qui te sont peut-être fournies par des amis ou des auteurs ?
Alors, je joue toujours pas d'instrument. Par contre, c'est vrai que à force de poser sur des instrus, donc soit que de gens que je connais ou que je connais pas, et que j'achète en ligne des musiques qui vont me plaire, que je recherche, et puis quand il y en a une qui m'inspire, j'achète pour pouvoir écrire dessus. À force de faire ça, j'ai eu de plus en plus envie de chanter, et puis à force de faire des concerts, ça ouvre un champ des possibles un peu plus grand, et puis je m'autorise de plus en plus à chanter, donc je me surprends à avoir des refrains chantés, même des chansons complètement chantées et plus du tout slamées. Je me permets plus de choses au niveau de la voix, mais je joue toujours pas d'instrument, enfin, pas publiquement.
Justement, là tu es en préparation d'un deuxième album,
ouais.
Comment s'opère-t-il ? Est-ce que tu as une demande, est-ce que tu as formulé une demande auprès de compositeurs, ou pareil, tu utilises des morceaux disponibles à une exploitation, et pour cela tu adaptes tes chansons, ou alors est-ce qu'il y a des chansons qui sont aussi à adapter ?
Souvent c'est moi qui m'adapte aux musiques, c'est encore des instrus, c'est plus rap que le premier album qui était un peu plus slam. Là, c'est un peu plus rap, c'est un peu plus personnel aussi. À la base, je voulais encore faire quelque chose où, avec un début ou une situation où ça va pas. Il s'appelle Vivre à l'envers, l'album. Et donc, au départ, il est bien avancé. Là, il est quasiment fini d'écrire. J'ai commencé même à l'enregistrer. Il y a une chanson qui est enregistrée. D'ailleurs, on pourra la passer après. Ça s'appelle Vivre à l'envers. Et en fait, au départ, j'étais parti dans l'idée de commencer avec des chansons où on vit vrai, où ça va pas, quoi, où on vit à l'envers. J'en dis pas plus pour l'instant. Et de faire une suite où, à la fin, on sort de cette situation, c'est strict, et on vit on commence à aller mieux et à faire les choses dans le bon sens. Et puis, au fur et à mesure de l'album, et de mes réflexions et de ma vie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un pas bien. Et un bien, et un problème et une solution, et que c'était pas aussi simple. Et au final, il y a plus de questions que de réponses. Enfin, il y aura plus de questions que de réponses dans cet album, même si j'essaye d'apporter des éléments de solution et de pointer des choses qui vont pas, mais il n'y a pas autant de réponses que je l'aurais voulu en débutant le projet, quoi.
Les chansons sont, une fois écrites, sont immuables. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que parfois tu es tenu aussi par cet instru, hein, avec un temps déterminé. Ça ne laisse pas libre cours peut-être aussi à l'improvisation.
Oh si, je trouve quand même, je me sens vraiment libre parce que je choisis les instrus en fonction de ce que je ressens au moment, c'est-à-dire si je ressens une émotion triste, je vais choisir une instrumentale qui s'accorde avec cette émotion, c'est-à-dire je vais en écouter. Quand il y en a une qui semblera retranscrire ce que je ressens, là je vais m'arrêter sur celle-là et commencer à écrire. Et je ne ressens pas de blocage, au contraire, ça m'aide... N'étant moi-même pas musicien, ça m'aide à avoir des pistes musicales, donc des directions dans lesquelles partir. Et l'écriture, j'ai quand même une certaine facilité. Ça fait vraiment longtemps que j'écris beaucoup, beaucoup de textes et j'ai pas tant de difficultés que ça à m'adapter à des musiques. J'écris sur les musiques. Mes textes sont écrits sur les musiques, la plupart en tout cas.
Est-ce que tu aurais le souhait peut-être d'être avec un musicien qui t'accompagne en live?
Ça pourrait être cool, ça s'est déjà fait. J'ai déjà fait quelques concerts avec un pianiste et c'était vachement bien. Après, lui, il est déjà intermittent depuis longtemps, il est déjà pris un peu partout, donc ses disponibilités sont limitées. Faut trouver la bonne personne, en fait. Si je trouve la bonne personne, ce serait cool, ouais.
Et par ailleurs, tu proposes des ateliers également sur de l'écriture slam, hein, en quelque sorte.
Ouais.
Tu fais ça aux environs de ton domicile, ne serait-ce que dans la Drôme?
Moi, j'habite à Avignon. J'habite pas dans la Drôme. Et je fais ça la plupart du temps. Quand je vais faire un concert, en fait, je propose de mener un atelier. Je propose au lieu qui m'accueille de mener un atelier avant mon concert, le même jour, de profiter de l'occasion que je me déplace pour le concert pour donner un atelier. Après, c'est vrai que c'est assez rare que je donne des ateliers sans donner de concert, ça va ensemble en général.
Et ça sera le cas donc pour ce 2
août ?
Non,
là, ça ne sera pas le cas.
Ah, dommage. Et donc, ce cas-là, quand même, il y a un moyen de te joindre si tu veux peut-être être invité pour d'autres soirées ou d'événements ?
Ouais, alors il y a mon mail sur mon site internet, l'albatros.org. Donc, mon mail est dessus. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site et à m'envoyer un mail.
Nous allons finir donc cette émission avec ce dernier titre dont tu nous as parlé un peu déjà, Vivre à l'envers.
Ouais, alors ça c'est... déjà c'est le titre de l'album qui sortira janvier-février, j'espère. Il a pris beaucoup de retard, il devrait déjà être sorti. Et je prends du retard parce qu'il y a des choses, je reviens en arrière et... Enfin, il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu, des nouvelles idées qui émergent et j'ai envie qu'ils soient à la hauteur de mes attentes. Et j'ai des attentes qui sont hautes, je prends du temps du coup. La chanson elle-même par contre, je l'ai écrite il y a très très longtemps, il y a genre 10 ans. En tout cas une ébauche de la chanson que j'ai écrite il y a 10 ans, où il y avait déjà quelques bouts. C'est en partie inspiré du film Fight Club. Il y a quelques extraits qu'on retrouve dans la chanson, enfin, vous allez entendre. Des extraits de la série Mr. Robot aussi, bon ça je l'ai vu plus tard. Mais bon bref, c'est une chanson où j'avais écrit le début il y a plusieurs années, de nombreuses années, et que j'ai retravaillé plusieurs années plus tard et réécrite. Voilà. C'était super long.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film Fight Club ?
La dénonciation de la société de consommation et de l'emprisonnement dans lequel on... Enfin, l'emprisonnement qu'on s'impose à nous-mêmes, en fait, là-dedans. Cet emprisonnement mental où on se retrouve à travailler toute la journée dans un métier où on n'a pas envie d'être, pour aller dans des vacances où on n'a pas réellement envie d'aller, c'est juste qu'on nous a suggéré d'y aller et qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on doit faire. Et puis on se retrouve toujours à faire des choses comme on nous dit qu'on doit les faire, sans se rendre compte que c'est pas ça qu'on a envie de faire. Et je trouve le film, il montre bien ça. Et je trouve que c'est un gros problème, ça, de réussir à sortir du carcan de ce qu'on nous indique de faire et qu'on a l'impression qu'il est ce qu'on doit faire, alors que ce n'est pas ce qu'on veut au fond de nous.
Nous allons nous quitter, en tout cas, monsieur l'Albatros. Hein,
je vous merci, présente comme ça. Merci beaucoup pour l'accueil.
C'était un plaisir, et puis peut-être l'occasion de nous revoir pour de prochaines dates.
Avec plaisir.
Et nous terminons donc cette émission avec Vivre à l'envers. Et je te souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Petit maman m'a dit de rentrer dans les rangs. Puis la maîtresse m'a dit cesse d'être différent. Ici t'apprends à vivre, pas à réfléchir. Alors fais comme les autres et arrête de gémir. Depuis ce jour j'ai peur de réussir. Peur de la mort au point d'avoir peur de vivre. Si je dois boire tous les soirs pour pouvoir être ivre. Entre un robot en cage et moi qui est le plus libre. On passe nos vies entières à vivre à l'envers. Ce songe le dédicace à tous les humains en chaîne. Enchaînés à des normes qui ressemblent à l'enfer. Qu'ont trop de pubs dans le crâne et de sucre dans les veines. Dans nos sourires éteints, y'a des relents de déprime. Comme un goût d'amertume, comme un air de routine. Qui nous mine, nous domine, qu'on rumine et qui nous ruine. Alors on défie l'insuline pour un shoot de dopamine. On prend des petites pilules, des pilules pour bander. Faire kiffer nos cellules, garder les yeux bandés. Et nourrir des chimères jusqu'à l'urne funéraire. Courir après une vie qu'on a peur d'atteindre. Courir obstinément, moins vite que le croque-mort. Toujours tourner en rond, esclave de nos passions. Toujours à contresens dans l'escalator. On passe nos vies entières à vivre à l'envers. Ce songe dédicace à tous les humains en chaîne. Enchaînés à des normes qui ressemblent à l'enfer. Qu'ont trop de pubs dans le crâne et de sucre dans les veines.
Les choses qu'on possède finissent par nous posséder.
Tu l'as la belle voiture, maintenant faut payer l'essence, le crédit, le loyer, les taxes, les assurances. Sous drogue pour oublier le poids de nos dépendances. On rêve de nos retraites comme on rêve de délivrance. Conditionnés par leur environnement, même nos rêves sont déprimants. Je me sens prisonnier de ces murs étroits, les quatre entre lesquels je m'enfermais déjà. Avant qu'on me confine sous le joug de la routine, je voudrais fuir, déjouer la torpeur. Je voudrais fuir, mais j'ai peur. Courir après une vie qu'on a peur d'atteindre. Courir obstinément, moins vite que le croque-mort. Toujours tourner en rond, esclave de nos passions. Toujours à contresens dans l'escalator. On passe nos vies entières à vivre à l'envers. Ce songe de dédicace à tous les humains en chaîne. Enchaînés à des normes qui ressemblent à l'enfer. Qu'ont trop de pubs dans le crâne et de sucre dans les veines.
On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien.
On préfère vivre sous sédatif. Parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est. Parce qu'au fond on est tous des lâches.
Faut que tu capitules, que tu saches que tu mourras un jour.
C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut.